est 6h20, l'Europe a-t-elle laissé entrer le loup dans la bergerie? Bruxelles accepte que le géant chinois des télécoms Huawei développe la 5G sur le continent, contrairement aux États-Unis qui, eux, ont exclu l'équipementier de leur marché. La 5G, je le rappelle, c'est l'Internet mobile ultra rapide. Bonjour David Groux.
Bonjour.
Vous êtes le directeur technique pour la zone Europe de la société de cybersécurité FireEye. Y a-t-il des risques à autoriser Huawei à participer au réseau 5G en Europe? Et si oui, quels sont ces risques?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de risque majeur qui ait été prouvé ou démontré sur l'implémentation d'une nouvelle technologie, quel que soit le type d'éditeur. Il y a en effet, je dirais plutôt, des questions à se poser et des garde-fous à mettre, comme pour toute nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on avance dans la bonne direction, que ce soit en termes de philosophie ou en termes d'approche au niveau européen.
Oui, parce que Thierry Breton lui-même a dit qu'il fallait quand même des garde-fous, des limites, des veilles à mettre en place. Comment on peut se protéger? Comment on peut s'assurer qu'il n'y aura ni espionnage ni sabotage?
Alors on peut se protéger de deux manières, et je dirais que c'est pas propre à la technologie 5G, c'est propre à toutes les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge énormément, qui voit énormément de changements. Il y a un premier niveau de protection qui est mis de plus en plus, et notamment en Europe, on est assez friand et je dirais on a l'habitude d'avoir cette approche qui est autour de la certification, de la qualification des technologies, c'est-à-dire valider une technologie avant même qu'elle arrive sur le marché. Mettre en place un certain nombre de tests, de validations, de vérifications sur la manière dont elle a été développée, la manière dont elle va être mise en place, la manière dont elle va être maintenue. Donc ça, c'est vraiment un premier élément qui est majeur, qui est avant tout déploiement, avant toute validation, de vérifier que ça fonctionne. On le fait depuis des années dans des mondes comme le monde de l'automobile. Hein, avant de lancer des nouvelles technologies autour de l'automobile, on va mettre en place un certain nombre de cadres de certification et de validation. Aujourd'hui, on peut l'imaginer, et c'est ce qu'est en train de faire l'Europe, sur d'autres domaines, comme le domaine de la téléphonie. Mmh. Et ensuite, une fois que l'implémentation est mise en place, on peut avoir une notion de garde-fou plutôt sur la surveillance ou l'analyse de ce qui se passe en temps réel. Et de la même manière, on peut avoir des audits réguliers de vérification que ce qui a été promis qui allait être mis en place, va bien être exactement ce qui est mis en place.
Et aujourd'hui, l'Europe a la capacité d'observer les réseaux?
Alors d'observer les réseaux, c'est pas simple, hein, parce qu'aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue technique, il n'est pas simple d'observer les réseaux. Donc je pense que ça va plutôt se faire. Et là, on va attendre encore quelques jours de voir arriver la boîte à outils qui a été promise par l'Europe sur le sujet. Je pense que ça va se faire plutôt à travers des audits réguliers et des vérifications par échantillonnage à certains endroits. Mmh. J'ai du mal à imaginer une observation, je dirais, grandeur nature sur l'ensemble du réseau européen. Ça paraît assez compliqué à imaginer.
Et est-ce qu'il faut protéger certains domaines sensibles, comme, je ne sais pas, des sites sensibles militaires, des sites économiques sensibles? Est-ce qu'il faut exclure Huawei de ces zones?
Alors, exclure, quel que soit le vendeur dont on parle, l'exclure ou pas l'exclure, c'est un choix qui est plutôt un choix de souveraineté nationale. Aujourd'hui, on a déjà en France la loi de programmation militaire qui permet de protéger ce qu'on appelle les infrastructures critiques ou d'importance vitale, si on prend la terminologie française. Donc, il y a un choix étatique qui peut être fait dans chacun des pays ou au niveau de l'Europe pour interdire ou pour autoriser des acteurs. Donc, oui, ça peut se faire. Ça peut même se comprendre d'un point de vue protection, je dirais, des États et de leur souveraineté. Donc, on peut imaginer avoir cette approche-là. On a déjà, si on prend des domaines un peu plus récents, ou en tout cas récents dans l'actualité, des choses qui se font, par exemple, au niveau de l'Internet. On a vu récemment la Russie qui a essayé de voir si elle pouvait avoir un Internet qui lui appartient et qui était à l'intérieur de ses frontières. Je pense qu'aujourd'hui, chacun des pays de l'Europe et même à travers le monde, cherche à maîtriser de mieux en mieux sa souveraineté nationale et donc ses infrastructures critiques, que ce soit de défense, mais aussi, pourquoi pas, de distribution d'eau ou de gestion électrique.
David Groux, quand on parle de cyberpiratage, on a souvent en tête l'image du hacker dans son garage. Mais aujourd'hui, réellement, c'est quoi la réalité du cyberpiratage et quelles sont les principales menaces?
Alors aujourd'hui, ça va dépendre globalement, je dirais, de la cible, de la victime potentielle. Mais en effet, on est très très loin de l'image d'Épinal, de ce mangeur de pizza qui est dans sa cave et qui découvre des codes malveillants et qui boit des canettes de soda toute la soirée pour tenir éveillé. On est dans un monde où le cyberespionnage fait partie de l'arsenal de grands pays internationaux qui l'utilisent de deux manières principales, pour résumer de manière assez simple pour les auditeurs, mm-hmm. soit pour faire du cyberespionnage, soit pour faire de l'extorsion financière. Alors, je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Il y en a un qui est dans l'immédiateté. L'extorsion financière, c'est tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit en ce moment avec des ransomware, des gens qui doivent payer une rançon pour soit repartir en production, soit récupérer des données qui auraient été volées sur leur réseau. Et ça, c'est un petit peu le focus qu'a la population parce que c'est visible, c'est immédiat. Mais ce sur quoi les États travaillent beaucoup aujourd'hui en termes de communication et en termes de prévention, c'est un mal un peu plus lancinant qui est le vol d'informations, le vol de propriété intellectuelle, le vol de process.
L'espionnage industriel.
Exactement. Et aujourd'hui, l'espionnage industriel a un petit peu changé parce que pendant des années, on imaginait l'espionnage industriel comme étant le vol, je dirais, d'un savoir-faire pour construire un alliage métallurgique ou pour construire une pièce d'avion ou une pièce de voiture. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'espionnage va bien au-delà de ça et notamment dans tout ce qui est process de certification. Et donc, certains États, la Chine en fait partie, ont une volonté à travers leur plan Made in China 2025 d'être capable de construire des choses pour les vendre à l'international. Les construire, ils savent le faire. Les certifier, les valider pour une vente internationale, c'est plus compliqué pour eux. Donc, il y a des velléités d'attaque APT, comme on les appelle, les attaques persistantes d'État pour faire du vol de propriété intellectuelle sur les process et les procédures de certification et de vente de matériel.
Et les victimes, ce sont plutôt des grosses entreprises ou ça peut être des PME?
Alors, ça dépend. Et je dirais que souvent, on pense aux grandes entreprises. Alors, elles sont victimes, elles sont ciblées. Mais on oublie très souvent la partie tierce partie et, je dirais, supply chain, comme on dit en anglais, donc prestataire. Voilà, je cherchais le terme en français. Les prestataires qui peuvent être des petites sociétés. Et notamment pour un pays comme la France, où on a une ambition très forte de l'État-nation, de la start-up. Aujourd'hui, toute société ayant une velléité de création technologique peut être la cible de ce type d'attaque.
Et ça coûte cher de se protéger ?
Alors, ça coûte cher, oui et non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière, je dirais, très simple, ce qu'on appelle, ou ce que l'Agence nationale de sécurité d'information en France appelle l'hygiène informatique. L'hygiène informatique, c'est beaucoup de choses de base qu'on oublie de faire. Aujourd'hui, on est dans un monde du mobile où globalement, il est assez naturel le matin de se lever avec sa petite pastille rouge qui nous dit de mettre à jour toutes les applications. Et on le fait, je dirais, assez facilement. Sur un réseau informatique, on a encore du mal à mettre en place les règles de base, les gestions de mots de passe, les mises à jour, la protection de l'accès du réseau. Donc déjà, ça, c'est un premier niveau de sécurisation. Et puis ensuite, en effet, on peut monter sur des niveaux un peu supérieurs sur du suivi en temps réel ou de l'analyse sur ce type de groupe d'attaquants.
Merci David Grou, directeur technique de la société cybersécurité FireEye. Vous étiez l'invité du 5-7.